Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Voici les principales articulations de votre journal. Mesdames, Messieurs, une noyade fait 13 victimes dans les eaux du lac Albert dans la province de l'Ituri. C'est à la suite d'un vent violent qui a soufflé dans la zone dans la nuit du jeudi à vendredi. Les autorités locales ainsi que le comité des pêcheurs affirment que plusieurs embarcations endommagées ont été retrouvées sans passagers à bord. Des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les corps. Plus de 200 hommes armés ont été signalés dans le parc national de Kahuzi-Biega près du village Kabusha dans le groupement Katana au sud Kivu. Selon la société civile dans le secteur, ces hommes venus de Masisi via Kalehe la nuit de jeudi à vendredi ont blessé par balle un motard et son client et ont pillé systématiquement les passagers sur leur chemin. Cyril Likoka, directeur provincial de l'EPST Bazuélé, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il revient sur la situation réelle de la gratuité de l'enseignement dans les Bazuélé et ce que pensent les partenaires éducatifs en vue de désengorger les écoles. Il est l'invité de votre journal. À Kinshasa, bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est mis en onde par Jean-Claude Nsiala et Pierrot Elameji vous le présente. Au moins 13 personnes seraient mortes noyées dans les eaux du lac Albert dans la province de l'Ituri. C'est à l'issue d'un vent violent qui a soufflé dans la zone dans la nuit de jeudi à vendredi. Les autorités locales ainsi que les comités des pêcheurs affirment que plusieurs embarcations endommagées ont été retrouvées sans passagers à bord. Des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les corps dont 5 sont déjà repêchés. Suivons les détails avec ces reportages de Jean-Claude Loki, rendu ici par Richard Junior Kamunga.
Ce sont la majorité des pêcheurs qui étaient surpris par cette tempête, affirme le commissaire lacustre dans la région. Certains avaient quitté le camp des pêches de Dio pour se rendre à Nana dans les territoires de Dukou. D'autres embarcations revenaient des Lako pour se diriger vers Kakato, un autre camp des pêches situé cette fois-ci dans le territoire d'Irumu. Durant près de 2 heures, soit de 18h à 20h, ce vent violent a pratiquement balayé toutes les eaux du lac Albert du territoire d'Irumu jusqu'à celui des Mahaki en passant par Dukou. Le bilan provisoire dressé par les bureaux du commissariat lacustre dans la région fait état d'au moins 13 morts jusqu'à ce samedi. 5 corps des victimes étaient déjà repêchés des eaux. Des recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les autres, a déclaré Jean-Robert Bédidio. Des informations confirmées par le président local de la Fédération du comité des pêcheurs du lac Albert. Ce dernier ajoute que plusieurs barques ont été retrouvées sans passagers à bord. Au stade actuel, estime où est les canons. Il est peu probable de retrouver des survivants. Signalons que parmi ces pêcheurs, Fikiré s'y rescapait.
La société civile de Kabaré alerte sur la présence d'hommes armés dans le parc national de Kahuzi-Biega près du village Kabushua dans le groupement du Katana. Nous sommes dans la province du Sud Kivu. Ces hommes venus de Masisi via Kalehe la nuit du jeudi à vendredi 23 avril estimés à 200 hommes ont blessé par balle un motard et son client le soir de jeudi dernier. Ils se sont mis à piller systématiquement les passants sur leur chemin ce soir-là. Selon notre source, ces hommes font peur dans les villages voisins. Les tirs entendus à Kabusha la nuit des jeudi à vendredi n'ont pas permis aux populations de fermer l'œil. Michel Chirimouami.
Ces tirs entendus par les habitants de Kabushua ne font aucun doute sur leur importance. Selon la société civile de Kabaré, ce serait un ensemble de 200 hommes qui ont franchi la limite entre Kabaré et Kalehe dans le parc Kahuzi-Biega au niveau du village de Bitala, côté Kabaré. C'est là qu'ils ont fait leur première victime en face du village de Bushaku, situé en territoire de Kalehe, le jeudi 22 avril soir. La société civile invite les autorités territoriales, provinciales et même nationales à se saisir de la situation pour vite déloger ce groupe armé qui vient s'ajouter à d'autres qui œuvrent dans ce parc national pour insécuriser les villageois voisins et même les passagers sur la route nationale numéro 3 Miti-Hombo Sud qui traverse le parc Kahuzi-Biega. Aucune autorité militaire n'a été jointe pour confirmer ou infirmer ces faits. Bukavu, Michel Chirimwami, Radio Okapi.
Le gouvernement provincial d'Elitouri salue l'annonce faite ce jeudi à Bounia par le patron intérimaire de la force de la MONUSCO à propos du renforcement de la brigade d'intervention de la mission des Nations Unies au Congo. Le gouverneur sortant Jean Bamanissa Saïdi se félicite du choix porté sur un pays, soit il faune, le Kenya, pour rejoindre cette unité spéciale de la MONUSCO, ce qui pourra, selon lui, faciliter la communication avec les populations locales lors des opérations de traque. De son côté, la société civile d'Elitouri dit attendre plus d'efficacité de cette force au regard des menaces auxquelles la province est confrontée. Le point avec Jean-Claude Loki-Dilé.
Cette annonce a été faite jeudi à Bounia par le commandant intérimaire de la force de la mission onusienne en RDC. Le général Thierry Lyon a tenu à confirmer les propos du chef de l'État qui a évoqué l'arrivée prochaine de soldats kenyans. Le gouverneur de l'Ituri salue la décision du Conseil de sécurité de l'ONU, Jean Bamanissa.
Nous avons besoin de ces forces d'intervention parce que, vu la situation, et donc les Nations Unies ont compris qu'il faut maintenant des forces offensives qui doivent travailler à côté de nos forces FRDC.
La société civile de l'Ituri estime quant à elle que la priorité devait plutôt être de renforcer la capacité logistique des soldats des FRDC pour faire face à l'ennemi. Cependant, le coordinateur de cette structure citoyenne attend voir une force onusienne combattante en vue de mieux répondre aux attentes de la population fatiguée des atrocités des groupes armés. Dieudonné Lossa.
Si c'est le mandat de MONUSCO qui va changer pour ça, là on a courage. Le portail serait d'avoir une force spéciale qui va venir et mettre fin à ce genre de comportement dans cette province.
Le général Thierry Lyon, commandant intérimaire de la force de la MONUSCO, qui dit avoir entendu les demandes de la population, a rappelé la détermination des soldats de la paix à agir désormais plus efficacement face aux actes de barbarie perpétrés par les groupes armés. Bounia, Jean-Claude Loki-Dilé, Radio Okapi.
Conflit institutionnel dans la province du Lualaba, la jeunesse de cette province réunie au sein de la société d'Iva appelle les acteurs politiques à privilégier la paix et le développement du Lualaba. Félicien Kanoun, président de cette association, l'a déclaré ce samedi 24 avril au cours d'une conférence de presse. Selon lui, le conflit au sein de l'exécutif provincial a arrêté l'élan des reconstructions. Félicien Kanoun l'a dit à Paul Matendo.
Il y a quelques mois seulement, le Lualaba était une terre paisible où régnait l'entente et l'harmonie, ce qui a permis d'ailleurs de le construire jusqu'au stade actuel. Mais aujourd'hui, en 5 mois seulement, il est devenu une terre où règne le désordre, la haine, la calomnie et même la chasse à l'homme. Tout cela à cause de l'intolérance politique de certains acteurs politiques et des intérêts égoïstes. Les dirigeants de cette province, au niveau de l'exécutif, comme au niveau de l'organe délibérant, sont tous fils et filles du Lualaba. Point n'est besoin de les diviser. Le Lualaba n'a pas besoin de division. Il a plutôt besoin de sérénité et de concentration pour son développement. Et face à cette situation, j'aimerais appeler les acteurs politiques à une prise de conscience et à privilégier aussi la paix et l'unité, gage de tout développement.
Au Kwango, le vice-gouverneur de cette province, Léopold Kangulumba, est visé par une motion de défiance. L'initiateur de la dite motion, le député provincial Willy Fayulu, affirme qu'au total 11 députés ont signé cette motion qui sera traitée lundi prochain. Selon lui, plusieurs griefs sont reprochés à cette autorité provinciale, notamment l'outrage à l'Assemblée provinciale, les détournements de plusieurs deniers publics lorsqu'il gérait les affaires courantes de la province, l'insubordination et autres. Plus de précisions dans ses reportages d'Irène Bouma.
Cette motion de défiance initiée contre le vice-gouverneur de la province du Kwango, Léopold Kangulumba, est consécutive à la question orale qu'avait adressée le député provincial Socrate Kangulumba, son fils biologique, au ministre provincial des Finances Tite Monde. Lors de sa réplique jeudi dernier, celui-ci a révélé beaucoup de faits graves qui ont cadré avec la période de la conduite des affaires courantes par ce vice-gouverneur. C'est le député provincial Willy Fayulu, initiateur de la dite motion, qui livre cette information à Radio Okapi. Il indique que que dans cette motion, plusieurs griefs sont reprochés à Léopold Kangulumba.
Entre autres, il lui est reproché l'outrage à l'Assemblée provinciale. Il y a eu aussi une subordination à l'endroit de sa hiérarchie. On l'accuse aussi de détournement des fonds d'examen d'État, session 2019-2020. Une bagatelle somme de 102 millions. Il y a aussi le détournement de 2 véhicules de la province. Il y a aussi le détournement de plus de 600 sacs de ciment non justifiés jusqu'à présent. Le détournement de 20 millions de frais perçus dans les antennes de la DGRQA lors de sa mission à Fichy. Il y a le détournement aussi de 40 millions de dollars des parcelles des espaces de l'État vendus à Fichy. Voilà autant de griefs formulés contre lui.
Notez que cette motion de défiance qui sera traitée lundi prochain est signée par 11 députés provinciaux du Kwango. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Les forces vives du Kasaï oriental, toutes tendances confondues, partis politiques, sociétés civiles, mouvements sportifs, religieux, le monde des affaires ont organisé ce samedi dans la ville de Mbujimayi une marche de soutien pour féliciter José Mpanda Kabangu pour sa reconduction à la tête du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique et remercie en même temps le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et le premier ministre Samalou Kondé pour la confiance témoignée à ses dignes fils du Kasaï oriental selon leurs propos. On écoute l'un des organisateurs de cette marche cadre du parti politique Congo Espoir, Maître Herbert Kadediem Tshibanda, joint par Richard Junior Kamunga.
Pour tous les manifestants, cette reconduction d'un de warriors, en l'occurrence José Mpanda Kabangu, induit inéluctablement la confiance, la compétence doublée de la méritocratie. J'ai donc noté, moi-même en tant que participant à cette manifestation, j'ai donc noté avec satisfaction que les forces vives du Kasaï oriental qui ont utilement perçu la vision républicaine de son excellent José Mpanda Kabangu, dont l'image a donc fédéré toutes les tendances au cours de la marche de ce jour, qui a vu la participation des milliers de personnes, ont crié comme un seul homme, merci président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut donc noter aussi que la société civile ainsi que les autres organisations ont recommandé au ministre l'abnégation, la détermination pour continuer à mériter la confiance du chef de l'État ainsi que du premier ministre, tout comme celle de l'ensemble du peuple congolais.
Retournons ici à Kinshasa où l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN a procédé au lancement officiel de sa cellule de droits de l'homme dans les parcs et dans les aires protégées de la RDC. C'était ce vendredi. D'après Cosma Wilungula, directeur général de cette structure étatique, certaines accusations du non-respect des droits de l'homme dans les parcs et dans les aires protégées de la RDC peuvent inciter les partenaires techniques et financiers à ne plus collaborer avec l'ICCN. Le personnel employé par cette cellule aura comme mission de mener des investigations sur des allégations de cas de violence, de violation des droits de l'homme qui seraient commis dans les parcs et dans les aires protégées de la RDC. Cosma Wilungula, directeur général de l'ICCN, au micro de Tati Mapoukou.
Pourquoi une nouvelle cellule? Parce que, effectivement, des accusations dans les différents parlements de pays donateurs à travers le monde portent sur les niveaux de suspension des financements lorsqu'il y a des actes qui sont jugés des violations des droits de l'homme. Quand vous allez en Allemagne, quand vous allez en Belgique, quand vous allez même au Parlement de l'Union européenne, lorsqu'il y a un pygmée, un peuple autochtone qui a été touché dans un parc, immédiatement c'est qualifié des violations des droits de l'homme et les suspensions de ces pays, les populations de ces pays demandent à leur parlement de pouvoir suspendre des financements parce qu'on ne peut pas financer des pays qui sont en train de violer les droits de l'homme. Alors l'ICCN ne pouvait pas rester sans aussi imaginer de mécanismes de lutte contre ces différentes accusations qui des fois sont gratuites parce qu'il y a beaucoup de confusion, où les gens ne connaissent pas les notions d'application de la loi, où les gens ne connaissent pas les notions d'air protégé.
Au Maniema, l'Observatoire congolais pour la gouvernance locale OCG l'a lancé hier vendredi 23 avril à partir de l'école primaire Kindouville, la campagne de sensibilisation des élèves sur l'importance de l'arbre. Ces activités visent, selon le coordonnateur de OCG, à inculquer aux enfants des notions sur la conservation de la nature. Jean-Paul Assani Kayombo ajoute que ces activités vont s'étendre sur toute la province. Par ailleurs, les élèves bénéficiaires de cette campagne se sont dit satisfaits de ces notions qui viennent compléter celles apprises à l'école. On écoute Jean-Paul Assani Kayombo dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, nous venons de lancer une campagne de sensibilisation aux élèves sur l'importance de l'arbre. Parce que dans le contexte mondial global des émissions de gaz à effet de serre, dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, ainsi qu'à d'autres activités, la RDC étant parmi les pays signataires de l'accord cadre des conventions des Nations Unies sur le changement climatique, qui avait pris des engagements d'atténuation concrets lors de la promotion des activités de RD+, des émissions de dégradation des forêts. Et notre planète aujourd'hui est touchée, c'est aux dégradations des exploitations illicites des arbres. Et voilà pourquoi nous sommes venus lancer cette campagne de les bas âges à une nouvelle génération, aux élèves, inculquer les notions de la conservation de la nature, les notions de conservation de l'environnement. Et cet agrès va s'étendre dans toute la commune de Kassouk et ville de Kindu en général. Nous devons conserver notre environnement sain parce que l'environnement nous intéresse tous. C'est un engagement de tout le monde, non seulement de nous ONG OCGEL, mais c'est pour toute la communauté de bien conserver l'environnement et que chaque ménage puisse avoir un arbre dans sa parcelle.
Actualité internationale.
Au Tchad, au lendemain des obsèques du président Idriss Déby, les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad de fact se disent prêts à observer un cessez-le-feu et à dialoguer autour d'une table. Le chef du fact, Mahamat Mahadi Ali, assure vouloir plus que jamais une issue politique à la crise actuelle. Joe Biden a reconnu samedi le génocide arménien, devenant le premier président des États-Unis à qualifier ainsi la mort des 1,5 million d'Arméniens massacrés par l'Empire ottoman en 1915. Les Américains honorent tous les Arméniens qui ont péri dans le génocide qui a commencé il y a 106 ans. Aujourd'hui, a-t-il écrit dans un communiqué, il s'agit d'honorer les victimes, pas d'accabler qui que ce soit, a souligné une responsable américaine sous couvert de l'anonymat, alors que la Turquie a mis en garde par avance tout recours à ce qu'elle dénonce comme un mensonge.
L'invité.
Quelle est la situation réelle de la gratuité de l'enseignement dans les Bas-Uélés et que pensent les partenaires éducatifs en vue de désengorger les écoles? Le directeur provincial de l'EPST Bas-Uélés, Cyril Likoka, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Cyril Likoka, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Est-ce que cette gratuité est une réalité dans votre juridiction?
Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes là, nous avons l'arrêté du gouverneur qui a interdit vraiment de percevoir les frais dans les classes de gratuité.
Donc on peut dire qu'il n'y a aucun frais qui soit perçu aujourd'hui dans les classes du primaire dans le Bas-Uélé.
Bon, il n'y a que bulletin, puisque nous avions reçu l'arrêté du ministre national exigeant que chaque élève puisse acheter son bulletin.
Pourquoi ce bulletin doit être acheté alors qu'il y a la gratuité?
Bon, là, je ne saurais pas plutôt vous donner la réponse exacte. Pourquoi? Puisque depuis que moi je suis ici, on avait toujours donné cette responsabilité au niveau des gouverneurs qui puissent supporter les frais bulletins, les frais minervales, tout consort. Mais jusque-là, cela n'a pas été appliqué.
Est-ce que la gratuité de l'enseignement a eu un impact dans la scolarisation des enfants dans les Bas-Uélés?
Oui, certainement, puisqu'il y a dans certaines écoles, il y a un flux des enfants, surtout en première année, deuxième.
Est-ce qu'on peut avoir des statistiques, ne fût-ce que la moyenne des effectifs des élèves dans les classes de première et deuxième?
Je pense qu'à mon avis, ça dépasse vraiment à peu près 10 000 élèves en première année et aussi en deuxième, mais je pense que ça serait dans les 9 à 8 000 élèves en deuxième année.
Là, vous me donnez des statistiques pour l'ensemble de la province à ce niveau-là. Mais la moyenne par classe, on peut atteindre combien d'élèves?
La moyenne par classe, d'une façon officielle, c'est 55 élèves à l'école primaire. Maintenant, comme il y a eu gratuité, comme il y a beaucoup d'enfants qui ont pris leur inscription à l'école primaire, en première année, en deuxième année, maintenant, il y a beaucoup d'élèves. Ça peut atteindre même 80, 100, même plus de 100 élèves.
Est-ce que les élèves peuvent étudier dans de bonnes conditions?
Non, ça, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Un enseignant ne peut pas encadrer plus de 100 élèves, plus de 80 élèves. Pourquoi? Ça sera vraiment un travail vraiment très lourd pour lui. Alors, il faudrait répartir ces enfants dans les 10 classes ou bien 3 classes.
Et là, si vous le répartissez, vous créez donc de classes parallèles. Et il y a un problème qui va se poser, celui des enseignants.
Oui, oui, certainement, ça va se poser concernant les enseignants. Qui va payer ces enseignants-là?
Alors, comment vous faites pour les prendre en charge?
Mais dans certaines écoles, là où il y a des classes parallèles, on doit maintenant retirer un enseignant dans cette classe parallèle et on confie dans une classe qu'on vient de créer pour encadrer ses enfants. Mais s'il n'y en a pas, on doit créer toujours des miracles. Quel est ce miracle? Ça serait tout simplement que le directeur d'école puisse exiger à cette classe-là quelques sommes d'argent pour payer l'enseignant qui est en train de dispenser cours à ses enfants.
Combien par exemple?
Mais ça dépend, on demande parfois 500 à 1000 francs.
Il y a des partenaires de l'éducation tels que l'UNICEF. N'avez-vous pas saisi l'UNICEF pour essayer de voir dans quelle mesure?
Je suis déjà au courant de tout cela, raison pour laquelle l'UNICEF avait fait vraiment une mission ici pour identifier certaines écoles de la place jusqu'à aller à... Ils étaient même à Akéti, à Bondon.
Quel est l'objet de cette mission?
L'objet de cette mission était d'identifier les écoles qui avaient plutôt beaucoup d'élèves dans les classes des premières, deuxième et troisième, qu'on puisse construire les salles de classe en matériaux durables, qu'on puisse ajouter les autres salles de classe, 2 salles de classe ou 3. Mais on a changé, on doit construire 6 salles de classe par école identifiée.
Combien d'écoles ont été retenues?
C'était 10 écoles.
Dans l'ensemble de la province?
Dans l'ensemble de la province pour toutes les sous-divisions. Mais maintenant, on va maintenant réduire puisqu'on a augmenté le nombre de classes. Alors, on doit se limiter à 5 écoles.
À quand le début de la construction de ces nouvelles salles de classe?
Ça va débuter bientôt, n'est-ce pas?
Comment vous appréciez cela?
Ça doit être le bienvenu, ce projet.
Monsieur le directeur provincial de l'EPC dans le Bas-Olé, merci.
Je vous remercie également, monsieur le journaliste.
Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Jean-Claude Siala. Il a été coordonné par Richard Junior Kamonga sous la supervision de Ben Kabamba. Quant à moi, Pierre Lemeji, je vous dis merci. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net. Merci.